Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Mémorandum du docteur Van Helsing, suite. 5 novembre, au matin. Il faut que je raconte chaque détail avec exactitude. Car bien que vous et moi nous ayons vu ensemble beaucoup de choses étranges, vous pourriez partir de l'idée que moi, Van Helsing, suis fou, que tant d'horreurs et une si longue tension nerveuse ont fini par déranger mon cerveau. Nous avons voyagé toute la journée d'hier, nous rapprochant des montagnes à travers un pays de plus en plus sauvage et désert. Il y a là de profonds, d'effrayants précipices et beaucoup de cascades, comme si la nature venait parfois tenir là son carnaval. Madame Mina ne cessa de dormir. J'avais faim cependant et j'ai mangé sans parvenir à la réveiller, même pour lui faire partager mon repas. Alors me vint la crainte que le charme fatal de l'endroit ne pesât sur elle, souillée comme elle l'est par ce baptême du vampire. « Bien, me dis-je, s'il faut qu'elle dorme tout le jour, il faudra bien aussi que je me prive de sommeil pendant toute la nuit. » Comme nous avancions sur une mauvaise route, une route construite grossièrement à l'ancienne mode, malgré moi, je penchai la tête en avant et m'endormis. Quand je me réveillai avec, à nouveau, le sentiment de ma faute et du temps écoulé, ce fut pour trouver Madame Mina toujours endormie et le soleil très bas. Mais tout avait changé. Les redoutables montagnes paraissaient plus lointaines, et nous étions près du sommet d'une colline escarpée, surmontée d'un château semblable à celui dont Jonathan parle dans son journal. La joie et l'angoisse me saisirent en même temps, car maintenant, pour le meilleur et pour le pire, le dénouement est proche. J'éveillai Madame Mina, et une fois de plus, j'essayai de l'hypnotiser, mais sans succès, hélas, sinon trop tard. Alors, avant que la grande obscurité ne tombât sur nous, car même après le coucher du soleil, les cieux renvoyaient sur la neige des rayons de l'astre disparu, et un vaste clair-obscur régna pendant quelque temps, je dételai les chevaux et leur donnai à manger dans l'abri que je pus trouver. Puis j'allumai un feu, à côté duquel j'installai Madame Mina, bien réveillée à présent, et plus charmante que jamais, confortablement assise parmi les couvertures. Je préparai un repas qu'elle refusa de prendre, disant simplement qu'elle n'avait pas faim. Je n'insistai pas, sachant que ce serait inutile. Pour moi, je mangeais, car j'avais à préparer mes forces à toute éventualité. Alors, rempli de terreur à la pensée de ce qui pouvait arriver, je traçai un cercle, assez vaste pour qu'elle y fût à l'aise, autour du point où Madame Mina était assise, et sur le cercle, je répandis une hostie en la brisant en fines parcelles, de façon que tout fût bien protégé. Pendant tout ce temps, elle resta assise, silencieuse, aussi immobile qu'une morte. Son visage devenait de plus en plus pâle, pâle comme la neige, et elle ne disait rien. Mais lorsque je m'approchai, elle s'accrocha à moi, et je sentis que la pauvre âme était secouée de la tête aux pieds par un tremblement qui brisait le cœur. Je lui demandai enfin, lorsqu'elle se fut apaisée, « Ne voulez-vous pas vous approcher davantage du feu ?»« En effet, je désirais voir de quoi elle était capable. » Elle se leva docilement, mais au premier pas, elle s'arrêta et resta immobile, comme si elle était enchaînée. « Pourquoi n'avancez-vous pas ? » insistai-je. « Elle hocha la tête et, revenant à sa place, s'y rassit. Puis, me regardant avec des yeux dilatés, comme un dormeur que l'on réveille, elle dit simplement « Je ne peux pas ». Et elle demeura muette. J'en fus heureux, car je savais que ce qu'elle ne pouvait pas, aucun de ceux que nous redoutions ne le pouvait davantage. Quelques dangers que courut son corps, son âme était sauve. Mais les chevaux s'étaient mis à hennir en tirant sur leur longe, jusqu'à ce que j'aille tout près d'eux pour les rassurer. Lorsqu'ils sentirent mes mains sur eux, ils les léchèrent en hennissant tout bas, en signe de satisfaction, et ils restèrent tranquilles quelque temps. Je dus plusieurs fois venir les calmer au cours de la nuit, avant cette heure glaciale où le pouls de la nature bat le plus faiblement. Au moment le plus froid, le feu commença de mourir, et je m'apprêtais à le ranimer, car la neige tombait à grands coups dans un brouillard glacé. Malgré l'obscurité, on y voyait un peu, comme c'est toujours le cas lorsqu'il y a de la neige. Les rafales de flocons et les tourbillons de brume prenaient la forme, semblait-il, de femmes aux vêtements traînants. Tout était mort, lugubre, silence. Les chevaux hennissaient en baissant la tête, comme s'ils redoutaient le pire. Je fus pris de terreur, d'une épouvantable terreur, jusqu'au moment où je me rappelais la sécurité que me donnait le cercle qui m'entourait. Je me mis aussi à penser que mes fantasmes venaient de la nuit, de l'obscurité et de la fatigue que j'avais endurée, et de ma terrible anxiété. Était-ce le souvenir de toutes les horreurs traversées par Jonathan qui me rendait fou ? Oui, la neige et le brouillard tournaient maintenant en rond jusqu'à me faire apercevoir dans l'ombre ces femmes qui, disait-il, l'auraient embrassé. Les chevaux se blottissaient davantage et gémissaient de peur, comme des hommes qui souffrent. Mais l'égarement que donne la frayeur ne les décidait pas à s'échapper. Je craignais pour ma chère Madame Mina lorsque ces figures étranges se mirent à tourner plus près de nous, mais elle restait tranquillement assise et me souriait. Lorsque je voulus me diriger vers le feu pour l'alimenter, elle me retint et murmura d'une voix semblable à celle que l'on entend en rêve, tant elle était faible. « Non, non, ne sortez pas du cercle. Ici, vous êtes en sûreté. » Je me tournai vers elle et lui dis, mes yeux dans les siens, « Mais vous, c'est pour vous que j'ai peur. » Sur quoi ? Elle rit, d'un rire bas et irréel. « Peur pour moi ? Pourquoi ? Personne au monde n'est plus que moi à l'abri de leur poursuite. » Je m'interrogeai encore sur le sens de ses paroles quand un coup de vent fit rejaillir la flamme et je vis sur son front la balafre rouge. Alors, hélas, tout devint clair pour moi. Du reste, j'aurais bientôt tout compris, car les tournoyantes figures de brouillard et de neige se rapprochaient de plus en plus, restant toutefois à l'écart du cercle sacré. Puis elles commencèrent à se matérialiser, si Dieu ne m'a pas privé de ma raison, car je les voyais de mes yeux, jusqu'à ce que fussent devant moi, en chair et en os, ces trois femmes que Jonathan vit dans la chambre quand elle s'apprêtait à lui baiser la gorge. Je reconnus les formes arrondies, ondoyantes, les yeux brillants et durs, les dents blanches, le teint vermeil, les lèvres voluptueuses. Elles souriaient à la pauvre Madame Mina. Leur rire venait à nous à travers le silence de la nuit. Elles s'enlacèrent et la désignèrent en disant, de ces voix si doucement cristallines que Jonathan avait décrites comme ayant une suavité intolérable. « Viens avec nous, notre sœur, viens, viens !» Épouvantée, je me tournai vers Madame Mina, mais de joie mon cœur bondit comme le feu, car la terreur de son doux regard, sa répulsion, son horreur, racontaient une histoire qui me remplit le cœur d'espérance. Dieu soit loué, elle n'était pas une des leurs. Je pris quelques-unes des bûches qui étaient près de moi et, tenant en évidence une hostie, j'avançai vers elles dans la direction du feu. Elles reculèrent à mon approche, en riant de leur rire bas et sinistre. J'alimentai le feu sans plus les craindre, car je savais que nous étions en sûreté à l'intérieur de notre rempart. Armée comme je l'étais, il leur était impossible d'approcher, ni moi-même, ni Madame Mina, tandis qu'elle était à l'intérieur du cercle. Incapable d'ailleurs d'en sortir, comme elle d'y pénétrer. Les chevaux avaient cessé de gémir et gisaient muets sur le sol. La neige tombait doucement sur eux, faisant d'eux comme un monticule blanc. Je savais que pour les pauvres bêtes, toute terreur était finie. Nous restâmes ainsi jusqu'à ce que la rougeur de l'aurore commença de percer la tristesse de la neige. J'étais navrée, effrayée, accablée de douleur et d'angoisse. Mais la vie me revint à mesure que le rayonnant soleil se mit à monter sur l'horizon. Dès son lever, les horribles fantômes s'évanouirent dans les tourbillons de neige et de brouillard. Les ombres ondoyantes, transparentes, se déplacèrent dans la direction du château et s'y perdirent. Je me tournai instinctivement, maintenant que l'aurore était là, vers Madame Mina, avec l'intention de l'hypnotiser. Mais un profond sommeil l'avait subitement saisi, et je ne pus l'en éveiller. J'essayai de l'hypnotiser tout endormie, mais elle ne me donna aucune réponse. Le moment de me mettre en route me fait peur. J'ai entretenu le feu, j'ai vu les chevaux, tous sont morts, ma journée sera chargée. J'attendrai jusqu'à ce que le soleil soit déjà haut, car là où je dois aller, il y aura peut-être des endroits où le soleil me sera une sûreté, même si la neige et le brouillard viennent l'obscurcir. Mon déjeuner va me réconforter, puis j'irai vers ma terrible besogne. Madame Mina dort toujours, et paisiblement. Dieu soit loué. Journal de Jonathan Harker. 4 novembre. Au soir. Terrible contretemps pour nous, cet accident survenu à la Vedette. Sans cela, nous aurions rattrapé le bateau depuis longtemps et ma chère Mina serait libre. J'ose à peine penser à elle qui traverse les bois autour de cet affreux endroit. Nous avons trouvé des chevaux, nous suivons les traces du monstre. Je note ceci pendant que Godalming se prépare. Nous avons nos armes. Les Tziganes, s'ils veulent se battre, auront à se tenir sur leur garde. Ah, si seulement Maurice et Seward étaient avec nous. Mais il nous faut espérer. Et si je ne puis en écrire davantage, adieu Mina, Dieu vous bénisse et vous protège. Thank you. Journal du docteur Seward, 5 novembre. L'aurore nous a révélé les tziganes s'éloignant de la rivière et conduisant leur charrette à vive allure en l'entourant de très près. Il tombe une neige légère et l'air est étrangement excitant. C'est peut-être tout subjectif, mais notre propre découragement a quelque chose de bizarre. J'entends au loin hurler des loups. La neige les fait descendre des montagnes et ils nous menacent de tous côtés. Les chevaux vont être prêts et nous allons partir. Au bout de notre chevauchée, il y a la mort de quelqu'un. Dieu seul sait qui, où, quand et comment. Mémorandum du docteur Van Helsing. 5 novembre, après-midi. Du moins suis-je sauf, et j'en remercie Dieu en tout cas, bien que l'épreuve ait été terrible. Laissant Madame Mina endormie à l'intérieur du cercle sacré, je m'acheminai vers le château. J'avais pris à Véresti un marteau de forgeron et l'avais mis dans la voiture. Il me vint à point. Toutes les portes étaient ouvertes, mais je les arrachais de leurs gonds rouillés, de peur que quelque malintentionné ou quelque accident fâcheux les refermât et m'empêchât de ressortir. J'étais instruit par l'amère expérience de Jonathan. Les termes de son journal me revenaient à l'esprit pour me guider vers l'antique chapelle où je savais que ma tâche m'attendait. L'air était étouffant, comme traversé d'une fumée de soufre qui, par moments, me donnait le vertige. Était-ce mes oreilles qui bourdonnaient ou des loups qui hurlaient au loin? La pensée de ma chère Madame Mina me mit alors dans une détresse indicible. J'étais tenu par la tenaille du dilemme. Je n'avais pas osé l'amener ici, je l'avais laissée à l'abri du vampire dans le cercle sacré. Mais les loups? Je décidai que mon devoir était ici et que pour les loups, nous devrions nous incliner si telle était la volonté de Dieu. De toute manière, il fallait choisir entre la mort et la liberté. Et j'avais choisi pour ma jeune amie. En ce qui me concernait, le choix était aisé. Le tombeau du vampire me paraissait pire que la gueule du loup. Je poursuivis donc mon entreprise. Je savais que j'avais au moins 3 sépulcres à découvrir, 3 sépulcres habités. Et je me mis en devoir de chercher, tant que j'en découvre un. Elle était étendue dans son sommeil de vampire, si pleine de vie et de voluptueuse beauté, que je frissonnais comme si je venais perpétrer un crime. Je n'en doute pas. Autrefois, quand existaient de telles choses, plus d'un homme prêt à accomplir une tâche analogue à la mienne sentit finalement le cœur puis les nerfs lui manquer. Et il dut attendre, si bien que la beauté fascinante de la jeune non-morte finit par l'hypnotiser. Et il s'attarde, et le soleil se couche, et le vampire a cessé de dormir. Et la jolie femme ouvre ses beaux yeux qui sont pleins d'amour. La bouche voluptueuse s'offre à un baiser, et l'homme est faible. Une victime de plus est promise au bercail du vampire. Une de plus pour grossir l'armée sinistre, effrayante, des non-morts. Oui, c'est bien une sorte de fascination qu'a exercée sur moi la seule vue de cette femme, étendue là dans une tombe usée par le temps, et lourde de la poussière des siècles, et malgré cette horrible odeur qui doit être celle des repères du comte. Oui, j'étais ému, moi, Van Helsing, malgré ma décision prise et ma haine si bien motivée, possédé d'un tel désir d'ajourner mon projet qu'il paralysait mes facultés et entravait jusqu'à mon âme. Était-ce le manque de sommeil normal et l'étrange touffeur de l'air qui commençait à avoir raison de moi? Je me sentais à coup sûr sombrer dans le sommeil, le sommeil éveillé de celui que domine une douce fascination, quand soudain me parvint, à travers l'atmosphère pacifiée par la neige, une plainte longue et basse, si remplie de souffrance pitoyable que je me ressaisis comme à l'appel d'un clairon. Car la voix que j'avais entendue était celle de ma chère Madame Mina. Alors je rassemblai mes forces pour en finir avec l'horrible tâche, et en décelant des pierres tombales, je découvris une autre des 3 sœurs, celle qui avait aussi les cheveux sombres. Je n'osais pas m'attarder à la contempler comme j'avais fait pour la première, craignant de me sentir de nouveau envoûtée. Je poursuivis ma recherche jusqu'à ce que j'eusse trouvé sous une tombe large, élevée, destinée, semblait-il, à un être très aimé, cette autre sœur blonde que moi aussi, après Jonathan, j'avais vue se dégager du brouillard. Elle était si charmante, d'une beauté si radieuse, si exquisément voluptueuse, que je sentis le profond instinct masculin qui nous pousse à chérir, à protéger un être de l'autre sexe, remplir ma tête du vertige d'une nouvelle émotion. Mais, grâce à Dieu, la plainte venue de l'âme de ma chère Mina n'était pas éteinte dans mes oreilles. Et avant que l'envoûtement agît davantage sur moi, je m'étais raidi pour mon affreux travail. Bientôt, j'eus exploré toutes les tombes de la chapelle, me semblait-il, et comme nous n'avions vu autour de nous, dans la nuit, que trois fantômes de nos morts, je supposais qu'il n'en subsistait pas davantage. Mais il restait un grand sépulcre, plus seigneurial que tous les autres, immense et de nobles proportions, portant un seul nom. Dracula. C'était donc là que le roi vampire abritait sa non-mort. Telle était la demeure à laquelle tant d'autres êtres étaient destinés. Le fait qu'elle était vide confirmait ce que je savais déjà. Avant de commencer à rendre ces femmes à leur mois trépassé, sinistre ouvrage, je déposai dans le tombeau de Dracula des parcelles de la Sainte Hostie et ainsi l'enchassai, non-mort, pour toujours. Alors devait commencer ce rôle effrayant devant lequel je reculais. N'eussé-je eu qu'un seul coup à frapper, c'eût été relativement aisé. Mais trois. Recommencer deux fois encore cet acte d'horreur. Car si ça avait été affreux pour la douce mademoiselle Lucie, que serait-ce quand il s'agirait de ces êtres étranges qui survivaient depuis des siècles et à qui la fuite du temps avait donné un surcroît de vigueur et qui, si elle le pouvait, défendrait leur absurde vie. Ah, mon ami John, n'était-ce pas la tâche d'un boucher? Si je ne m'étais pas raidi par la pensée d'une autre mort et d'une vie prise dans un tel étau d'épouvante, jamais je n'aurais pu aller jusqu'au bout. J'en tremble encore. Et cependant, jusqu'à ce que tout fût terminé, mes nerfs, Dieu soit loué, tinrent bon. J'avais vu l'apaisement du premier visage, une félicité qui se répandait fugitivement sur lui, juste avant la dissolution suprême, comme pour attester que l'âme avait été conquise. Sans cela, jamais je n'aurais pu poursuivre cette boucherie. Je n'aurais pu endurer l'horrible crissement du pieu quand il pénétrait dans les chairs, ni le sursaut de la beauté torturée, les lèvres couvertes d'une écume sanglante. J'aurais fui, épouvanté, laissant l'œuvre inachevée. Mais elle est finie. Ces pauvres âmes, je puis maintenant les plaindre et pleurer, en pensant à chacune d'elles, telle que je l'ai vue, pacifiée dans le plein sommeil de la mort, une seconde avant de disparaître. Oui, cher John, il en fut ainsi au moment même où mon couteau eut coupé chaque tête, avant que le corps commençât à se réduire pour retourner à sa poussière originelle, comme si la mort ajournée depuis des siècles avait enfin affirmé ses droits en disant hautement « Me voici ». Avant de quitter le château, j'en assurai les issues de façon que le comte n'y puisse plus jamais rentrer, non mort. Peu après que je fus revenu dans le cercle où dormait Madame Mina, elle se réveilla et s'écria en me voyant, d'une voix douloureuse, que j'en avais trop enduré. « Venez, dit-elle, quittons cet affreux endroit. Allons rejoindre mon mari qui, je le sais, se dirige vers nous. » Elle était amaigrie, pâle, épuisée. Mais son regard était pur et brillant. Je fus heureux de constater sa pâleur et son malaise, tant mon esprit était obsédé par l'horreur toute récente du sommeil vermeil des vampires. C'est ainsi que, plein de confiance et d'espoir, mais d'inquiétude aussi, nous partîmes vers l'Est pour retrouver nos amis, et lui dont Madame Mina affirme qu'elle sait qu'il vient à notre rencontre. Thank you.
Thank you.